Je vous propose de commencer tout de suite la conférence de Jean-Claude Milner. Y a-t-il des pronoms politiques ?
Je ferai une petite remarque de langue en commençant. Je ne sais pas si d'autres que moi l'ont fait. C'est que le titre du banquet de cette année, « Qui est nous ?», est grammaticalement équivoque. Ou bien qui est le sujet et nous est la tribu, ou bien qui est la tribu et nous est le sujet. Vous avez la première analyse, qui est nous, c'est sur le modèle de la phrase qui définit les romans policiers, qui est le coupable ? Le coupable, eh bien, c'est l'attribut et qui, eh bien, on cherche le nom qui vient à la place de qui. Tandis que si on prend la deuxième analyse, le modèle de la phrase, c'est par exemple, question qui revient dans la presse à plusieurs reprises, qui est François Hollande ? C'est-à-dire que François Hollande est le sujet et on s'interroge sur quoi ? Pas tellement sur des noms, mais sur des adjectifs ou des qualités que l'on pourrait attribuer à François Hollande. Et donc, qui est nous ? La question préalable aurait pu être, mais est-ce que nous cherchons à déterminer les propriétés caractéristiques du nous, auquel cas nous est le sujet et qui est l'attribut ? Ou est-ce que, considérant que le nous est constitué, nous nous interrogeons sur qui en fait partie ? Pour des raisons que je crois justes, on a très généralement choisi la deuxième lecture, c'est-à-dire qu'on s'est interrogé sur les propriétés qui caractériserait le nous. Et je garderai cette orientation. Mais il n'est pas mauvais de garder aussi, en tête aussi l'autre interprétation, éventuellement pour la mettre à l'écart. Autrement dit, une interprétation du type, appelons-la Front National, considère que le nous est parfaitement défini, mais que la question, c'est de savoir qui en fait partie. Et ça n'est pas la même chose qu'une question qu'on pourrait dire nationale, qui n'est pas la question du Front National, qui est de savoir comment on caractérise les propriétés du nous. Le point de départ effectif de mon propos sera une affirmation que j'ai eu l'occasion de répéter plusieurs fois ici, la politique concerne les êtres parlants. Elle naît de l'expérience que ceux-ci font de leur multiplicité. Mais c'est aussi de cette multiplicité que naissent les langues. Il n'y a pas de langue privée. Il n'y a pas de langue qui se déploie intégralement dans le seul à seul. Toute langue dépend d'une multiplicité préexistante. Puisque le lien de la langue à la multiplicité des êtres parlants est certain, la langue et la politique sont parentes et homogènes. En tout cas, dans ce qui concerne leur commencement, leur naissance. Cela étant admis, ne devrait-il pas se faire que dans les langues, au plus intime des langues, on trouve des amorces de la politique, puisqu'elles sont parentes ? Alors, bien entendu, Mallarmé l'objecte, les langues sont plusieurs, et il est non seulement difficile, mais vraisemblablement impossible de les considérer toutes ensemble, et toutes du même point de vue. On va donc choisir la voie du particulier et se souvenir que, pour Marx, la France était le pays de la politique. Alors, il parlait de la France du XIXe siècle, issue de la révolution, directement de la Révolution, et la langue française a changé depuis. Mais nous l'entendons encore, je veux dire la langue du XIXe siècle. Nous entendons quelque chose de la langue de Victor Hugo, pour ne prendre que lui. Par ailleurs, la France d'aujourd'hui est aussi différente de ce qu'elle était au XIXe siècle. Sans nécessairement être pessimiste, on peut dire qu'elle est plutôt le square de la tranquillité politique plutôt que la nation des révolutions. Mais je dirais qu'en France, le souvenir de la période des révolutions se maintient parce qu'il se réveille, c'est aussi une caractéristique française, il se réveille, je dirais, dès que l'occasion s'en présente. On peut dire que, même si ce n'est que de l'ordre du souvenir, le lien entre la langue française et la politique est au moins sujet à réveil. Je m'interrogerai donc, je crois légitimement, sur la langue française. Et pas sur les mots qui signifient quelque chose, je veux dire les mots, les noms, comme le nom de révolution, le nom de changement, le nom de pouvoir, etc. Je vais m'interroger, parce que ça a tout à fait un sens de faire cela, de s'interroger sur les mots qui ont une signification, mais je trouve qu'il est plus fécond de s'interroger sur des parties de la langue qui n'ont pas de signification directe, mais qui ont des fonctionnements. Et parmi ces éléments qui n'ont pas de signification directe, et plutôt des fonctionnements, je vais m'interroger sur des entités de langue qui ont un rapport fort et pour certains définitoire à la prise de parole. Ces éléments, vous les connaissez tous, ce sont les pronoms personnels. Gertrude Stein retrouvait la construction de l'Empire britannique dans la syntaxe de la prose anglaise du XIXe siècle. On peut relier, je crois, assez facilement la belle langue française du XVIIe siècle et la primauté de la syntaxe qui s'y exerce à l'émergence d'une politique centrée sur la souveraineté. Le terme de principal et de subordonné renvoie à la primauté du prince. Et si l'on devait pousser l'analyse, je dirais que l'écriture de Montesquieu, qui évite la subordination, a quelque chose à faire avec sa théorie des pouvoirs, qui consiste à éviter, comme le pire, en vérité, le pire concept politique qui soit, la notion de souveraineté. Et en préférant à la subordination la coordination, il inscrit dans sa langue un choix qui était un choix politique. Je m'interrogerai, moi, sur les pronoms dits personnels. J'ai des prédécesseurs. Je rappelle qu'ici même, Martin Reiff avait étudié les pronoms personnels chez Rousseau. Pour ma part, je ne privilégierai aucun auteur. Je prendrai en quelque sorte la langue que nous écrivons ou parlons tous. De mon point de vue, ça représente une forme de retour à la linguistique, mais une linguistique affranchie de Chomsky et qui se permettra, peut-être sous l'influence freudienne, de l'association libre et de la tension flottante. Ma question est donc, celle que j'ai prise comme sujet de mon intervention, existe-t-il des pronoms politiques en français ? Alors, que pourrait être un pronom politique ? Si on se souvient que la politique, c'est fondamentalement ce qui règle, régit la prise de parole des êtres parlants au sein d'une multiplicité et qui traite cette éventuelle tragédie possible qui est qu'un être parlant qui prend la parole prive de parole tous les autres êtres parlants, la politique est ce qui, face à ce point de réel, dit « tu ne tueras point ». Celui à qui la parole n'est pas donnée ne tue pas celui qui a pris la parole. Et la politique introduit ce mode de fonctionnement où la parole, une fois prise, peut être rendue, peut circuler. Alors ce sont des règles d'alternance, ce sont des règles diverses, le vote à intervalles, éventuellement le tirage au sort, qui est une certaine façon de régler cette rivalité. En gros, ma position, c'est que la politique, c'est le contraire de la lutte à mort, telle que Hegel l'avait décrite. Loin que je considère, comme Carl Schmitt, que la politique se dérive de la lutte à mort, je considère que la politique est le contraire de la lutte à mort, précisément parce que nous ne parlons jamais ensemble, nous ne parlons pas en chœur. Nous pouvons chanter en chœur, nous ne pouvons pas parler en chœur. Que pourrait donc être un pronom politique ? C'est un pronom qui désigne un être parlant et seulement un être parlant. C'est un pronom qui met en cause le passage de l'être seul à l'être plusieurs parmi les êtres parlants. Pour la propriété, la première, les pronoms personnels, mais pas forcément tous, parce que « il », par exemple, le pronom de troisième personne, peut évidemment désigner des êtres parlants, mais il ne désigne pas uniquement des êtres parlants. Il peut désigner des choses. Il n'y a en vérité que les pronoms de première et deuxième personne, que ce soit au singulier ou au pluriel, qui ne peuvent désigner que des êtres parlants au sein de l'acte de parole. Il faut donc séparer ce groupe des pronoms que j'appellerais proprement personnels du pronom improprement personnel, qui est l'ensemble des pronoms de troisième personne. L'émergence du pluriel, c'est un indice, mais pas un indice nécessaire. Une forme au singulier peut renvoyer à une multiplicité. Songez à « on », par exemple. On peut désigner, bien que ça s'accorde au singulier, ça peut désigner une pluralité. Et si vous pensez à la première personne ou à la deuxième, la première personne s'adresse à des interlocuteurs et donc suppose qu'il en existe. Et la deuxième s'adresse aussi à un interlocuteur et suppose qu'il en existe. On est donc dans une multiplicité d'êtres parlants. Le « je » le « tu », le « nous », le « vous » ne prennent sens que par la situation de parole. Je parle, je te parle, je et d'autres, c'est-à-dire nous, toi et d'autres, c'est-à-dire vous, parlons ou parlez. Et ce que je voudrais souligner, c'est que la prise de parole pertinente est toujours inaugurale. C'est-à-dire que quand je dis « je », c'est en fait comme si c'était la première fois que je disais « je ». Il n'y a pas de mémorisation des diverses occasions antérieures où j'ai pu dire « je » et où j'ai pu prendre la parole. C'est donc à la fois la toujours la première fois et toujours la dernière. Ce qui fait que quand on a plusieurs occurrences de « je » dans un texte ou dans la même phrase, c'est en vérité le ressurgissement toujours nouveau et toujours éphémère. En fait, comme l'éphémère, l'insecte ne vit qu'un seul jour, le pronom « je », le pronom « tu », les pronoms proprement personnels ne vivent qu'une fois. Et quand ils réapparaissent, c'est un nouveau pronom personnel, identique au premier, mais malgré tout entièrement nouveau. Je dirais que de ce point de vue-là, mais j'y reviendrai, il y a quelque chose de l'ordre de la création continuée, de l'interlocution dans la langue. Je vais prendre un exemple célèbre. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Le verbe se tourne vers le passé, mais le « je » est au présent de sa prise de parole. Alors, la prise de parole de qui ? D'abord, de la prise de parole de celui qui écrit « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Mais en fait, il est aussi contemporain ou présent contemporain de la prise de parole de celui qui lit cette phrase au moment où il la lit. Parce que la lecture est une prise de parole. Quand nous lisons, et c'est ça la grande force de ce qu'on appelle la littérature, c'est que lorsque nous lisons un texte littéraire, en termes de prise de parole, nous parlons. La parole ne nous est pas prise. Nous parlons en lisant. De ce fait, le « je » de « je me suis couché de bonne heure » est à la fois contemporain du verbe passé, « s'être couché de bonne heure », autrefois, ou jadis. Il est contemporain du moment où Proust l'écrit. Il est contemporain du moment où un lecteur la lit et de tous les moments où n'importe quel lecteur lit cette phrase, que ce soit pour la première, la deuxième, la 85e ou la 10 000e fois. Cela veut dire que du point de vue de la chronologie, de ce qu'on pourrait appeler l'horloge, ce sont une indéfinité d'instants séparés qui sont fondus dans le présent que représente le « je » de la prise de parole. Je dirais donc que le « je », de ce point de vue-là, cette première phrase du temps perdu, annonce par sa formulation même que le temps sera retrouvé. Parce qu'en vérité, il se retrouve à chaque instant que la phrase a été écrite, que la phrase est lue, qu'elle sera lue, qu'elle a été lue. En termes techniques, cela s'appelle l'éternel présent. Le « je », et pas le « je » de Proust, le « je » de la langue, est toujours contemporain de la prise de parole. Il est donc éternellement présent à toutes les occurrences de ce « je » et quel que soit le temps de là ou des prise de parole. Si je est un éternel présent, je veux dire le je de langue, alors il a une propriété définitoire de la divinité. Le je de l'Exode, je suis ce que je suis, énonce l'éternel présent d'un être divin, et on a beaucoup commenter le fait que le verbe hébreu puisse s'entendre comme un présent, comme un passé ou comme un futur. Mais je dirais que cette propriété du verbe hébreu qui est intraduisible dans le verbe français, en vérité, elle est traduite dans la première personne, le « je ». Et le « je » de la voix du buisson ardent et le « je » de l'éternel présent mais ni plus ni moins que le jeu de Moïse, qui dira ensuite à cette voix « je ne sais pas parler ». La structure du jeu est exactement la même dans la bouche de l'être éternel et dans la bouche de l'être mortel, éphémère et incapable de parler. Parce qu'il s'agit du jeu de langue. Je ne vais pas entrer dans le détail, des analyses comparables pourraient être faites pour les autres formes des pronoms proprement personnels. Tu, etc. Il y a un indice, d'ailleurs, c'est que dans un même texte, le je est répété. Je précise ceci. Prenons « je pense donc je suis ». Le « je » apparaît deux fois, il est répété. Ça n'a l'air de rien. Mais réfléchissez au fait que le « je » dont « je pense donc je suis » est, en termes de référence, c'est Descartes. C'est donc la même référence que le nom propre Descartes. Donc on pourrait dire « je pense donc je suis », ça peut se transcrire en termes de référence sans perte dans Descartes pense, donc Descartes est. Parfait, on a répété. Mais le professeur de lettres souligne, il dit, mais vous n'avez pas besoin de répéter Descartes. Vous écrivez Descartes pense, donc il est. Alors l'élève dit, mais pourquoi je ne dis pas je pense, donc il est? Pourquoi est-ce que je suis obligé de répéter je? Mais la réponse, c'est que le « je » est précisément impliqué dans l'acte de parole. C'est un pronom de la prise de parole, tandis que le « il » et le nom propre ne sont pas impliqués directement dans la prise de parole. Ils sont impliqués indirectement dans la prise de parole. On peut dire « Descartes » sans que Descartes ait parlé. Mais Descartes ne peut dire « je » que quand il prend la parole. Et ce n'est pas parce que c'est Descartes, de même que ça n'est pas parce que c'est Dieu, c'est parce que le « je » dans la langue est comme ça. Il y a donc une bizarrerie à laquelle nous rendons pas compte, c'est que le pronom de parole, proprement personnel, qui est lié à l'être parlant, doit être indéfiniment répété. Il ne peut pas être lui-même pronominalisé, et notamment pas par « il ». Il est donc toujours un pronom d'entrée en scène et un pronom de sortie de scène. Le « il », lui, est de l'ordre de la mise en mémoire. C'est la mise en mémoire. Et d'ailleurs, il est réglé par des contraintes de mise en mémoire. Quand on m'adresse ici à ceux qui ont l'occasion d'écrire, que ce soit des écrivains ou, comme on dit, parfois des écrivains, c'est-à-dire des personnes dont ça n'est pas l'activité principale, ils savent très bien que s'ils commencent un texte, mettons un rapport d'accident de voiture, en disant le chauffeur d'en face a donné un coup de volant brusque, il a dérapé, il est entré dans ma voiture, etc. Très bien. S'il commence par dire le chauffeur d'en face, et puis après il y a 5 ou 6 phrases qui parlent d'autre chose, qui parlent de la voiture, du temps, de la pluie, du vent, etc. Et puis qu'il reprend en disant « il », on lui dira « mais qui est cet « il » ?» On a oublié entre-temps. Il faut qu'il y ait une relation de proximité suffisante entre le nom et le « il ». Mais si on a oublié, ça veut dire que c'est de l'ordre de la mémoire. Donc le « il » est mémorisation. Et je dirais que le « il » a affaire avec toutes les entreprises de mémorisation de la langue. C'est le pronom de l'archive. C'est le pronom aussi de la naissance de l'écriture. On pourrait dire que la troisième personne naît à Sumer. puisque la troisième personne est la mémorisation dans la langue, de la langue, par la langue. Et le « il », quand il est répété, n'est pas le même à chaque fois, et c'est pourquoi il faut pouvoir retrouver de qui il s'agit par le biais de la mémoire, alors que le « je », à l'intérieur d'une prise de parole homogène à elle-même, le « je » est répété et c'est toujours le même. Parler de quelqu'un en troisième personne, alors qu'il est présent, c'est impoli. Pourquoi c'est impoli ? Tout simplement parce que ça veut dire que la personne en question, on l'a confié à la mémoire, ça veut dire qu'on peut l'oublier. Et si on peut l'oublier, on la traite comme quelqu'un qui peut manquer à sa place, c'est-à-dire comme quelqu'un qui peut mourir. Donc, la personne qui se choque d'être appelée « il » en sa présence, a raison, c'est le traiter comme quelqu'un qui est sous une dalle ou dans une pierre tombale ou dans une urne funéraire. Ça n'est pas forcément un compliment. Alors, en revanche, on comprend aussi pourquoi ça peut être une forme de politesse. Quand on dit « monsieur souhaite-t-il prendre un apéritif ?», ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monsieur en question est placé si haut dans la hiérarchie des êtres qu'il n'appartient plus à l'acte de parole de celui qui parle. Il est hors communauté des êtres parlants. Donc on peut s'adresser effectivement à la troisième personne, à l'être divin, et c'est ce qui se passe dans le judaïsme, où précisément parce que la première manifestation à Moïse se fait à la première personne, après, tout se passera à la troisième personne avec le nom imprononçable, et c'est en fait l'imprononçable de ce nom qui empêche que cette mémorisation par la troisième personne soit l'amorce d'un oubli. Autrement dit, quand on passe de la première personne du « je suis qui je suis » à la troisième personne, Adonai, si vous voulez, on pourrait dire, eh bien, c'est un enterrement de première classe. Ce qui empêche que ce soit un enterrement de première classe, c'est que les voyelles ne sont justement pas les mêmes que les consonnes, ou que la transcription des consonnes ne vocalise pas. C'est dans cet imprononçable que se situe le fait que la mémorisation est nécessairement imparfaite, et donc que ce dont c'est la prise de mémoire se rappelle à la présence. C'est par l'imprononçable que la mémoire n'est pas l'amorce de l'oubli. Je dirais que la statue de pierre de la troisième personne, l'idole de la troisième personne, se fond sous le coup de l'imprononçable et alors ressurgit la mémoire vivante de celui qui, en première personne, a dit « je suis qui je suis ». Le Christ, lui, parle en première personne, mais tant qu'on ne sait pas qui il est, tant qu'on ne sait pas qu'il est en vérité le Sauveur, le Messie. Et à partir du moment où on le sait, c'est-à-dire à partir du moment de la résurrection, eh bien, arrive la troisième personne. Ceux qui ont une éducation chrétienne connaissent le credo. Il a été crucifié, il est mort, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Cette troisième personne rend compte de ce que j'appellerais l'essence du christianisme. Pour être un pronom politique, un pronom doit ne pouvoir désigner que des êtres parlants. Il doit soulever le problème du rapport entre prise de parole et multiplicité, il doit toujours être inaugural, il ne devra pas entrer dans une chaîne de mémoire, mais il doit être soumis à répétition, en quelque sorte obligatoire. On touche Ainsi, à une dimension fondamentale de la politique, elle est intégralement en acte. Dès que commence la mise en mémoire, elle se suspend. Et c'est toute la difficulté de la politique, si j'ose dire, instituée. Pour ceux qui croient que la politique passe par le vote, c'est l'instant du vote qui est politique. La mise en mémoire des résultats, mettons pour 5 ans, c'est une mémorisation de l'acte politique. Et cette mémorisation peut être un oubli, peut être l'amorce d'un oubli. Et là, toute la question, c'est de savoir comment, si et comment, cette mémorisation peut ne pas être un oubli. Alors, c'est ce à quoi s'emploie la presse. C'est pourquoi la presse doit être libre, parce qu'elle est là pour empêcher que la mémorisation soit l'amorce d'un oubli. Est-ce que la presse qui s'exprime en langue française est à la hauteur de la langue française elle-même? Je vous laisse juger. La question ne relève pas de ma compétence. Je m'appuierai sur Platon, je dirais que l'être parlant est un corps parlant et que le corps parlant a besoin de se reposer. Donc, la politique ne peut pas être de tous les instants. L'acte politique ne peut pas être de tous les instants. Et le rôle des institutions politiques, c'est de permettre le repos pour que le corps reprenne des forces pour que la politique recommence. Et c'est de cela qu'il s'agit quand je dis que la mémorisation ne doit pas être l'amorce d'un oubli. La politique, l'institution politique est là pour permettre le repos. Et ce repos, évidemment, comme tous les repos, peut conduire au sommeil. Le sommeil peut conduire aux songeries et peut conduire aux fantasmes. Mais le rêve, dit Freud, c'est aussi le gardien du sommeil. C'est pourquoi et le sommeil est le gardien de la vie continuée du corps. De la même manière, je dirais que les songes creux de la presse française, même s'ils ne le savent pas eux-mêmes, sont les gardiens du sommeil politique, en tant que le sommeil politique n'est pas l'endormissement, mais la préparation, la reprise possible de l'acte politique. Là encore, les songes creux sont-ils à la hauteur de la langue qu'ils écrivent? Je ne me prononce pas. Il y aurait maintenant, si j'avais le temps, si je devais être complet, si j'étais dans un séminaire ou un cours, je ferais remarquer qu'il y a d'autres pronoms politiques que ceux que j'ai notés. Et qu'il y a d'autres circonstances où le pronom potentiellement politique devient politique. Quelques exemples. La première phrase du discours sur l'origine de l'inégalité de Rousseau est la suivante. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Les commentateurs de Rousseau sous la Révolution ont dit, quand Rousseau parle du vrai fondateur de la société civile, il parle de la fondation de la politique. Parce que la politique est nécessaire dans la société civile, elle n'est pas nécessaire dans l'état de nature. Dire qu'il y a une phrase qui fonde la société civile, c'est dire que cette phrase fonde la politique. Or, qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Évidemment, Rousseau souligne la propriété, mais moi, ce que je soulignerais, c'est l'émergence du moi. Ceci est à moi. En fait, c'est la première fois que l'être qui est pris dans l'état de nature éprouve le besoin de dire « moi ». Dans l'état de nature, on n'a pas besoin de dire « moi ». Il se trouve, parce que c'est l'origine de l'inégalité, je veux dire que Rousseau se penche sur cette question, que cette profération se fait à l'occasion de la prise de propriété. Mais le surgissement du moi chez l'être parlant peut se passer à d'autres moments, et je lance cela comme un sujet d'étude, un devoir sur table, démontrer que le stade du miroir chez Lacan occupe la même fonction discursive que le « ceci est à moi » du début du discours de Rousseau. Ça n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, la découverte du congénère, c'est la découverte d'un être humain en tant qu'il pourrait être lui aussi un être parlant. C'est pourquoi l'enfant se retourne vers celui qui le porte. Et en tant qu'il est un être parlant, il est le noyau de la politique. En fait, ce que l'enfant découvre dans le stade du miroir, ça n'est pas le congénère, c'est le concitoyen. De la même manière, ou plus exactement, d'une manière analogue et opposée, le forda est la naissance de la troisième personne, puisque c'est l'expérience de la mère en tant qu'elle peut manquer. Et la bobine que lance l'enfant, cet objet du jeu, c'est la troisième personne. Elle n'est plus là, elle reviendra. Et la fonction de la troisième personne, c'est cela. Ce qui manque à sa place peut revenir, ne serait-ce que par le discours. Pas forcément par la résurrection, ne serait-ce que par le discours. Que ce soit par Rousseau ou Lacan, on touche au fondement de la politique dans le monde qui est le nôtre, qui est le monde de la philosophie, de la science, de l'horizon monothéiste des religions. La condition de la multiplicité politique dans ce monde, c'est la proclamation publique du « je », dans la forme du « ceci est à moi », dans la forme du stade du miroir. Le « nous » politique, s'il existe, dépend du « je » et non l'inverse. Catherine Clément a exposé un monde qui repose sur l'axiomatique exactement inverse, et je serais intéressé de savoir si les hellénistes considèrent que dans le monde grec, c'est le « nous » qui est premier et le « je » second, ou le contraire. Fustel de Coulanges pensait que c'était le « nous » qui était premier dans la cité antique, et que le « je », en fait, s'il apparaissait, n'apparaissait qu'après. S'il en est ainsi, je dirais très clairement que « nous » moderne, n'avons rien à apprendre du monde antique. Ça n'a rien à voir. Nous avons à apprendre du monde antique les raisons pour lesquelles il n'est profondément pas le nôtre. Si, je répète, si, effectivement, c'est le « nous » qui est premier et qui fonde le « je », alors que pour nous, c'est le « je » qui fonde le « nous », le « je » politique qui fonde le « nous » politique. D'autres pronoms seraient à étudier, le « on », qui est, si j'ose dire, le pronom de la statistique, le pronom politique de la montée en puissance du sondage dans la vie politique. Quand on dit 90% des Français, mettons 80% des Français sont hostiles à Hollande, François Hollande, ça se dit « on est hostile à François Hollande ». Et le « on » n'en dit pas plus et pas moins que 80%. Le chiffrage de 80% n'est qu'un habillage destiné aux acheteurs de sondages du « on » qui en donne exactement la même information. Et de ce point de vue-là, la langue, comme d'habitude, précède la technique. Elle a découvert la statistique avant que les statisticiens n'existent. Il y aurait le « il » du pluriel. Vous savez, le « il » On a dans les phrases, ils vont nous augmenter les impôts, ils n'ont pas compris que les Français ne sont pas des grands enfants, etc., etc. Ce « il-là », il serait assez facile de montrer que c'est un « il » inaugural. Il ne reprend pas quelque chose qui vient avant. Et j'abrège, c'est le « il » qui désigne le pouvoir politique quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Le pouvoir, quel qu'il soit, que nous l'appelions politique au sens étroit ou pas, c'est-à-dire pour les enfants, c'est les parents, pour les parents, c'est les enfants, quand les parents ont le sentiment que les enfants leur dansent sur la tête, pour les professeurs, ce sont leurs élèves, pour les élèves, ce sont leurs professeurs, etc., etc. Pour les gouvernants, c'est les gouvernés, pour les gouvernés, c'est les gouvernants. C'est, pour reprendre une formule proche de Lacan, c'est la désignation du sujet supposé pouvoir, quelle que soit sa désignation par ailleurs. Et là encore, c'est un « il » qui se répète. Il n'est pas pronominalisé, il se répète. Je n'entre pas dans les détails. Resterait le « tous », très intéressant, le plus intéressant, puisque c'est un « tous » dont on n'a pas reconnu l'existence, et dont je vous signale simplement qu'il apparaît précisément dans des contextes politiques, la lutte de tous contre tous, la démocratie, le gouvernement de tous par tous, etc. Et la difficulté qu'en tout cas moi j'éprouve à passer de « tous les hommes sont mortels » à « tous sont mortels ». Alors que je n'ai aucun problème à passer dans la République française, dans la Troisième République française, tous les hommes ont le droit de vote, à tous ont le droit de vote. Et il me faut me rappeler, après, que ce « tous » ne se dit pas au féminin. Et d'ailleurs, en français, « toutes » ne peut pas s'employer. Avec cette interprétation politique, même si l'on devait décrire une gynécocratie démocratique, il serait très difficile de dire, dans la gynécocratie démocratique, toutes exercent, toutes gouvernent pour tous. Ce serait difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. J'ai vu que la langue française a féminisé les noms de métiers, alors que tous les linguistes pensaient que c'était impossible. Donc, les pouvoirs de l'évolution historique sont plus grands qu'on ne croit, et que ne croient les linguistes. Donc, je laisse cela de côté. J'en viens maintenant à ma question, plus exactement à la question qui m'était posée concernant le « nous ». Je dirais que le « nous » n'est pas nécessairement un pronom politique. Pour qu'il le soit, je reviens à ce que j'ai dit à plusieurs reprises, il faut qu'il mette en question le passage à la multiplicité des êtres parlants. Tout le monde est d'accord pour considérer que dans le « nous », il y a un « je » qui est impliqué. La question, c'est de savoir si ce « je » qui est impliqué est plongé dans la multiplicité sans que soit problématisé ce rapport du « je » au multiple ou si ce rapport est problématisé. Il y a des circonstances où il est problématisé. Je pense, par exemple, au « nous » de l'engagement. « Nous », par exemple, la première phrase de la Déclaration des droits de l'homme, enfin le « Bill of Rights », « nous, le peuple, considérons comme vérité évidente par elle-même », etc., etc. Ça, c'est une phrase inaugurale et c'est un « nous » inaugural. C'est un « nous » qui, dans l'interprétation qui lui est donnée, dans le statut qui lui est donné, est dans sa première occurrence. Et lorsqu'il réapparaîtra au fil des textes constitutionnels anglo-saxons, ce sera à chaque fois la première fois et il faudra le refonder à chaque fois. Si d'aventure ce « nous » n'est pas refondé, alors on entre dans la mémorisation et en fait, en l'occurrence, dans l'oubli, puisqu'on ne pose plus la question du passage l'un au multiple, que constitue l'engagement ou réciproque ou simultané. Je dirais que le « nous » ne vaut rien en politique quand il est constitué par avance. C'est pourquoi j'ai choisi, dans l'interprétation du titre « Qui est nous ?», j'ai choisi, comme tout le monde, mais en m'étant posé la question, une interprétation où le « nous » n'est pas constitué d'avance, qu'il est à constituer. Quel que soit le principe de la constitution, le « nous » constitué d'avance, que ce soit par le lieu géographique, que ce soit par la nationalité, par l'appartenance familiale, que ce soit en fait de façon générale sur la base d'une ou plusieurs propriétés communes qui sont données avant. On n'est pas dans le domaine de la politique. On est dans le domaine de l'affirmation limitative d'appartenance communautaire et en fait dans ce qu'on appelle d'un mot qu'on interprète souvent mal, dans le communautarisme. Le communautarisme est une doctrine politique du nous constitué d'avance sur la base d'une propriété ou de plusieurs propriétés déterminées d'avance. Donc de ce point de vue-là, le Front national, dans la mesure où apparemment il considère que le nous national est constitué d'avance par les frontières naturelles, par le bulletin de naissance, etc., etc., est une forme de communautarisme et, de ce point de vue-là, à mes yeux, une forme antipolitique. C'est la mise en suspens ou la mise en cessation de la politique. Je redoute toutes les formes d'engagement, y compris les mieux intentionnées, qui constituent le « nous » sur la base d'une propriété préétablie, en quelque sorte inscrite dans les choses. La propriété qui rassemble le « nous » doit naître du rassemblement lui-même, doit naître de l'engagement lui-même. Quand on dit, je reprends la forme, nous, le peuple, tenons pour évidente telle et telle vérité, la propriété qui rassemble les membres de cette communauté, c'est cette proclamation elle-même. Il n'y en a pas d'autre. Donc tous les appels à l'engagement qui naissent en quelque sorte des choses qui sont préétablies, je m'en méfie, y compris quand elles sont très bien intentionnées. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Qu'y a-t-il de plus généreux ? Eh bien, je dirais que le noyau de danger de cette phrase, ce noyau de danger qui s'est déployé dans le temps, c'est que précisément, on est amené à considérer qu'être prolétaire, c'est une propriété inscrite d'avance dans les choses. Alors que, par exemple, dans le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels, le rassemblement dans la Révolution produit son propre principe de rassemblement. Et c'est le danger de l'interprétation économiste qui a finalement prévalu dans le marxisme pour être après remplacé par une interprétation tout simplement nationale où le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, devenez prolétaire de tous les pays, reconnaissez ce qu'il y a de soviétique en vous, et sur cette base-là, unissez-vous. On ne peut pas imaginer de renversement plus complet du parcours politique. Pour moi, le « nous » suppose le « je » et suppose le passage de ce jeu à la multiplicité. L'enfer de Sartre, il dit que c'est les autres. Mais en réalité, si vous lisez Huis clos, c'est dans cela que c'est une pièce politique. Ce qui est le moteur de la haine, c'est qu'on ne trouve plus le lieu pour dire « je », puisque chaque proclamation du « je » est immédiatement ressaisie par les autres et, en quelque sorte, précédée par la proclamation des autres. D'ailleurs, un des personnages, à savoir Inès, lui dit « je suis une foule ». Je suis une foule. Ça veut donc dire que la foule est d'emblée présente. Et si la foule est d'emblée présente, alors le jeu n'est plus possible. On parle souvent de la haine de l'autre. Je dirais que la haine de l'autre, ce n'est pas la haine de l'autre, mais plutôt la haine du je que l'autre peut énoncer en parlant de soi. Et comme l'expression du je, c'est son corps, et que dans son corps, c'est de manière privilégiée son visage, toute pièce de vêtement qui dissimule le visage par décision institutionnelle est une pièce de vêtement qui dit « la politique est interdite ». C'est pourquoi je suis pour l'interdiction du port du voile islamique, non pas parce qu'il est islamique, mais parce que c'est un voile intégral. Et ça n'est pas un voile, ça n'est pas un masque du visage, c'est un bâillon. Et c'est le bâillon qui porte sur la bouche, qui pourrait dire « je ». Et effectivement, ça proclame la précédence du « nous » sur le « je ». Et toute la logique politique à laquelle je tiens proclame la précédence du « je » sur le « nous ». Qui est « nous » Je transformerai la question « de quel engagement à soi-même et à autrui peut se constituer un « nous » aujourd'hui ? À quelle communauté donnée dans les choses peut-on faire subir éventuellement la transformation violente qui en fera non pas la cause du « nous », mais la conséquence du « nous » ? Ce que j'appellerais, si vous voulez, dénationaliser la nation, déterritorialiser le territoire, défamilialiser la famille, pour que ces entités données dans lesquelles nous vivons deviennent des entités pour tous, comme il est arrivé au mariage récemment.